J'ai tellement d'amis. Quand je regarde ici, j'ai amené des amis aussi avec moi. Naturellement, vous connaissez mon ami Eric Sellerier. Il est ici. J'ai vraiment tissé, comme j'aime ça tes termes. C'est vachement bien quand tu parles comme ça. Quand j'entends parler Polo ou je t'entends parler, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici en France? Je parle tellement mal. Il y a d'autres personnes qui parlent tellement mieux que moi. Mais vous savez, souvent le Seigneur regarde si on est disponible, pas si on est parfait. Je fais beaucoup d'erreurs en français. Alors, premièrement, est-ce que vous me pardonnez pour toutes mes erreurs? Est-ce que vous me pardonnez pour mon accent cassé? Oh, wow! Mais comme il a dit, ça, il y a 5 ans, un homme qui s'appelle John Maxwell, on jouait au golf. Eric est là, je pensais que tu étais là. Mais j'ai tissé, durant les derniers 5 ans, j'ai tissé des amitiés. J'ai appris ça des Français. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les Français, mais moi, j'aime la France. Et j'aime les Français. Puis souvent, en voyageant, parce que je voyage à travers le monde, tous les mois, je suis ou bien chez moi, à Las Vegas. On a une église de peut-être 5 à 6 000 tous les dimanches. Et maintenant, notre église aussi, on a 5 locations ou 5 établissements. On a 4 à travers la ville de Las Vegas. Et on a un sur l'Internet à cause de mon ami Eric qui nous a aidés. Et l'an passé, on avait 14 000 personnes qui ont vécu le culte avec nous autres à ICLV. 14 000 différentes personnes sur l'Internet. En plus des 5 ou 6 000 tous les dimanches. Alors, gloire à Dieu. Ça fait 19 ans qu'on est là. Au mois de le 12 janvier, juin, c'est notre 20e année. Notre 20e anniversaire à Las Vegas. Je suis un Québécois, mais un Québécois manqué. Ça fait depuis 82 que je vis aux États-Unis, mais je suis encore un Canadien. J'ai jamais eu le passeport américain. Je suis un Canadien, sûrement, parce que j'ai toujours eu une vision de retourner au Canada un jour. Mais le Seigneur ne l'a jamais permis. Alors, je donne gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Et en plus de ça, j'ai amené des amis avec moi qui vont vous aider à avoir des ressources qui vont vous aider pour grandir votre église, plus en santé émotionnellement, spirituellement et en point de relation. J'ai été formé pas comme pasteur, j'ai été formé comme un psychologue ou quelqu'un qui est... J'ai une maîtrise en relation d'aide. Alors, j'ai été formé en relation d'aide, mais le Seigneur m'a appelé à tout abandonner pour aller à Las Vegas pour prendre une petite église. Et ça, c'est il y a 19 ans. Et le Seigneur a fait des bonnes choses. Mais j'ai amené des amis avec moi qui vont vous aider. Premièrement, Nicolas. Est-ce que tu peux te lever, Nicolas? Viens, ça, c'est mon ami Nicolas du Québec aussi. Il déménage à Las Vegas. Nicolas, viens ici pour 2 secondes. Nicolas, c'est un vedette de la télévision au Québec. Il faisait partie des séries, aussi des annonces. Alors, introduis-toi et dis-leur pourquoi tu es ici.
Donc, ouais, comme... Pasteur Paul l'a dit, mon nom c'est Nicolas et je viens du Québec et je déménage dans un an à Las Vegas pour prendre en charge un ministère qu'on va vous présenter qui s'appelle Jesus Said Go. Jésus a dit allez. Et dans le fond, c'est un ministère de stage international parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs personnes veulent s'impliquer dans le champ missionnaire ou juste s'impliquer pour Christ, mais c'est souvent les occasions qui manquent où on ne sait pas par où commencer, où on n'a pas nécessairement les contacts. Et même le pourcentage d'étudiants qui ont fait un collège biblique ou qui ont fait une école de ministère et qui ensuite n'ont rien à faire parce qu'il y a un manque au niveau de l'envoi. Donc, on a utilisé les contacts que Paul a tissés à travers les 19 dernières années à travers le monde. On a des endroits en Indonésie, en Afrique, en Asie, partout en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada. On a des endroits qui sont prêts, qui nous disent... Envoyez-nous des gens, on a besoin d'aide, envoyez-nous. Si c'est pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, c'est vous qui choisissez la durée de votre stage. Tout ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont des aptitudes, et on sait qu'ici, la salle est remplie de talents, et on veut aider nos amis à travers le monde pour répondre à des besoins. Donc, peut-être que vous voulez partir, mais peut-être aussi vous voulez recevoir. Qui ici, pasteur d'église ou directeur de ministère, disent « Ben moi, j'en prendrais des stagiaires pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois ». Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et ce qui est beau avec ça, c'est que même, on va vous envoyer de l'argent pour recevoir ces stagiaires-là. Qui dit amen? C'est pas beau, ça? Et donc, je vais prendre en charge tout ce qui est le milieu francophone de Jesus Said Go. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir. Si vous voulez plus d'informations, on peut en parler, discuter un peu plus de ce qu'est la vision ou voir dans votre église ou dans votre ministère, quels sont les besoins que vous avez ou qu'est-ce que vous pouvez offrir. Et on va rester en contact, puis on va changer le monde ensemble. Parce que le monde est à changer. Et les chrétiens veulent le changer. Donc, il faut commencer à être vraiment la tête du train, la locomotive, et foncer et changer les choses. Et c'est ce qu'on veut faire.
Il y a 2 personnes qui ont fait des formations à Las Vegas avec nous autres, des gens qu'on aime tellement, 2 jeunes femmes de Dieu, Caro, Lève-toi, Caro, c'est une femme de Dieu, elle va être là pour vous aider. Et aussi Sarah Jane, on peut l'applaudir, Sarah Jane, ils sont là pour vous aider. J'aimerais donner des cadeaux parce que j'aime donner des cadeaux. Je comme un Québécois, on aime ça, on est chaleureux, on aime ça. Alors, je viens amener des cadeaux et les ressources sont là derrière pour vous aider, mais j'aimerais donner des cadeaux pour commencer ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les cinq puissances de Dieu ». Ça, c'est vraiment bien, c'est parce que ça parle des cinq mots en grec. Nous autres, en français, on dit « puissance », mais en grec, c'est un langage plus précis. Alors, pour le mot « puissance », il y a cinq mots grecs, parce que le grec, c'est comme le surrugie, c'est très spécifique. Alors, un des mots veut dire l'autorité déléguée par Dieu. L'autre mot, ça veut dire le dunamos, la puissance de miracle. L'autre mot, ça veut dire énergie. Alors, en tout cas, il y a cinq mots, et je développe ça, cette idée-là, pour aider les églises à comprendre que la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour les cultes. C'est pour les politiques, c'est pour les entreprises, c'est pour les familles. Alors, c'est vraiment une application d'amener la puissance de Dieu en dehors des quatre murs des églises pour vraiment faire que ça fonctionne dans le monde des gens de nos églises. Alors, les gens, beaucoup actuellement, je pense que c'est les seules copies au monde maintenant en français. Je pense que le restant des copies sont vendues. Alors, je donne ça à mon ami Paulo pour te remercier pour le fait que tu as offert le bâtiment ici. Est-ce qu'on pourrait applaudir Paulo encore une autre fois? Je t'aime, mon frère. Est-ce que tu l'as déjà, celui-là? Oh, tu l'as. OK, je te donne une autre. Est-ce que tu as les sept étapes? Donc, celui-là. Éric, as-tu les cinq puissances? Tu l'as déjà? Est-ce que tu as les cinq puissances? Ah, je te le donne, mon ami. Philippe, champion Philippe. OK, tu as les cinq puissances. Paulo, je te donne les sept étapes. Je te donne les sept étapes d'une vie chrétienne épanouie, publiée par Jonathan Boulay, l'équipe ici. Et ça, c'était un livre qui est très important parce que ça parle des transitions. J'ai 53 ans maintenant. Je vis la vie en rose. Toutes les choses que le Seigneur nous a données, je suis béni. Je suis marié depuis 31 ans. Denis, c'est ma meilleure amie. On est en amour. C'est ma main droite dans notre ministère. J'ai cinq enfants, trois qui viennent de notre chair. Isabelle, elle a commencé notre centre de relations d'aide. Déjà, elle a 8 personnes avec des maîtrises qui travaillent pour elle. Ça, c'est ma petite fille. L'aînée. Deuxième, c'est Christine, elle a 24 ans. Elle vient juste d'avoir un autre enfant. Je suis grand-papa 4 fois maintenant. Je viens juste d'avoir notre quatrième il y a 2 semaines. Il s'appelle Justice Judas. Et c'est des noms. Mes enfants choisissent des noms. mais ma deuxième, c'est une femme de Dieu, une chanteuse de louanges de notre église. Elle fait ça comme bénévole, mais elle est incroyable. Troisième, c'est Samuel à l'âge de 19 ans. Il a commencé notre maison de prière 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À l'âge de 19 ans, il l'a commencé. À 21 ans, il a aidé à commencer l'église sur Internet. Merci à Eric, son aide. Et gloire à Dieu, lui puis Ryan ont commencé ça, puis c'est formidable. Et à l'âge de 23 ans, il me dit, « Papa, est-ce que je peux prendre le groupe de jeunesse? Je suis prêt d'être un pasteur, je suis prêt. » Alors, il vient juste de prendre le groupe de jeunesse et ça a explosé en point de vue numérique. Et les jeunes viennent et il y a eu vraiment un réveil de nos jeunes. À notre église, on passe des temps très durs dans les derniers 2 ans à Las Vegas. Comme vous savez, c'est le temps de récession. On a perdu la valeur des maisons, on descendu au moins la moitié. Imagine, un jour ta maison vaut 200 000 euros, 6 mois plus tard, ça vaut 100 000 euros. Ça nous a frappé fort. Et non seulement ça, on a 15% de chômage à Las Vegas. 15% étant dur. Mais on a aussi un réveil d'âme. Depuis le 29 décembre, on a baptisé 700 personnes. Depuis le 29. Est-ce qu'on peut donner de gloire à Dieu? Oui! C'est fort, ça! Et vraiment, c'est ces révélations-là qui m'ont aidé à faire la transition à travers de récession. Et vraiment, c'est le livre que j'ai écrit pour les prochains 10 ans de ma vie. Parce que c'est un livre pour les transitions. Alors, j'aimerais donner ça à Paulo. Merci, mon ami Paulo. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de copies, là, mais vous pouvez en servir. Il y a d'autres cadeaux que je veux donner aussi. Je vais donner peut-être cet après-midi ou plus tard. Mais la famille transformée, c'est le seul place au même. Maintenant, il reste des livres en français. Ils ont tous été vendus. C'est sold out, mais j'ai une couple de copies. Ça, c'est l'histoire de notre famille. Parce que notre quatrième, c'est un jeune garçon, Joseph, de l'Afrique, de Rwanda. J'ai deux fils africains. Les deux viennent de Rwanda. Un est 2,06 m, l'autre est 2,13 m. Ils sont venus chez nous, Oui, tous les deux ont accepté Jésus, tous les deux suivent Jésus maintenant. Un sent appelé à être un expert en relation d'aide, celui de 2m13, il ne veut pas jouer au basket. Je lui dis, Fernand, t'es sûr que tu ne sens pas appelé à jouer au basket? Il dit, non, papa, j'ai pris ma retraite. Mais je lui dis, Fernand, t'es 2m13, tu devrais jouer au basket. Non, papa, j'ai pris ma retraite, je veux aider les jeunes qui ont subi des atrocités comme moi. Il veut aider les jeunes qui ont été blessés dans la vie. Alors, gloire à Dieu. Et deuxièmement, l'autre joue encore au basket, il y a une bourse à l'université. Mais ça, c'est l'histoire de notre famille. Parce que je trouve, moi, je connais beaucoup de pasteurs qui ont des grandes églises et beaucoup de ministères qui ont des bonnes choses, mais le mariage s'écroule. J'ai vu d'autres ministères que leurs enfants n'aiment pas Dieu, n'aiment pas l'église. Même récemment, j'ai parlé à un jeune homme de 33 ans. Il dit, Pasteur Paul, qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus aller à l'église de mon père. Il dit, j'aime le Seigneur, mais je ne peux pas endurer les dysfonctions de notre église. Ça m'a attristé. Et j'ai eu la chance de parler au papa plus tard. Je pense que ça va se réconcilier. Mais le père, il semble, tu sais, il y a une église de dysfonction. Et beaucoup de pasteurs, ils irritent des églises de dysfonction. En tout cas, ça, c'est le livre que j'ai écrit sur la famille. Ça va vous aider. Et l'autre chose que je pensais que j'avais pu, les 30 jours pour la vie et santé émotionnelle, je fais du coaching. En tout cas, OK, on saute. Ça, c'est tout là pour vous aider. L'équipe est là pour vous aider et on vous aime. Amen. Hey, j'ai dit à Philippe hier, on riait, j'ai dit, demain, je vais chanter une chanson de Maurice Chevalier. Parce que souvent, j'aime ça chanter des chansons d'Édith Piaf ou Mireille Mathieu. J'aime chanter les chansons en français. Parce que je parle français à ma petite fille, je l'appelle Coco Chanel. Son nom, c'est Bravery Grace, mais ça ne traduit pas bien en français. Donc, je l'appelle Coco. Et quasiment tous les jours, je danse avec ma petite Coco. Et je lui parle en français parce que je veux qu'elle soit au moins bilingue et peut-être trilingue avec l'espagnol. Et je danse avec elle. Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en rose. Tu me dis des mots d'amour, les mots. Mais hier, j'ai dit à Philippe, aujourd'hui, je vais chanter une chanson de Maurice Chevalier. Est-ce que tu le connais? Il dit, oui, je le connais. Et Polo m'a dit aujourd'hui, Maurice Chevalier vient de ce région-ci. Il est né proche d'ici. J'ai raison. Alors, la chanson, c'est en anglais, mais il chante une chanson en anglais. Every little breeze seems to whisper Denise. Even the trees mention Denise. Could it be true? Someone like you could love me. Denise. Maurice Chevalier. J'étais chez un des footballeurs il y a une couple de semaines ici à Paris. J'étais ici pour 5 jours pour Jésus Culture. Après ça, je suis allé chez moi pour 4 jours et je suis revenu pour les formations ici. Vous dites, est-ce que tu aimes la France? Oui, j'aime la France et j'aime les Français. En tout cas, j'ai eu la chance de non seulement prêcher, j'étais le prédicateur à Jésus Culture, mais j'étais allé, ils m'ont dit, Paul, est-ce que tu fais une étude biblique avec un gars qui s'appelle Marcos? C'est quoi son dernier nom? Serra. J'ai dit oui, il dit c'est un footballeur, même je connais pas le football moi, alors un footballeur, ok, fine. Alors je suis allé faire une étude biblique chez lui, il y avait, tu sais, à Jésus Culture, je pense qu'on avait 1600, 1700, alors le jour après c'était une étude biblique. J'ai dit oui, je vais y aller, j'aime ça. Je suis allé, puis je rencontre Marcos et il me dit, Paul, la moitié des personnes ici vont pas être sauvées, ils connaissent pas Jésus. J'utilise mon étude biblique pour toucher les gens qui sont pas sauvés. J'ai dit gloire à Dieu. Alors ce soir-là, j'ai eu la chance de partager la bonne nouvelle avec eux et 20 personnes ont accepté Jésus. Il y avait 90 personnes là, dans sa maison, et 20 de ces personnes ont accepté Jésus. Au début, il y avait deux Français qui étaient très chics. Hein? Vous connaissez les gens. Les Français, des fois, sont très chics, sont bien habillés. Tu vois que c'était la bourgeoisie peut-être française, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient assis puis il y avait les bras croisés. Tu voyais qu'ils n'étaient pas ouverts. Mais à la fin, j'ai dit... Parce que c'est des fans de football, les gens vont le voir. Alors j'ai dit, vous savez, si vous acceptez Jésus, vous savez que tout le ciel va célébrer. Et vous savez la chanson qu'ils vont chanter si vous acceptez Jésus ce soir? Ils ont dit, non, quelle chanson? J'ai dit, ça c'est la chanson que tout le ciel va chanter. Olé, 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 olé. J'ai dit, chante avec moi. Oh, tout le monde commence à chanter. Parce qu'au début, il était comme ça parce qu'il y avait des gens, des musulmans, il y avait des toutes sortes de personnes non chrétiennes. Tout à coup, il commence à chanter avec moi. Et à la fin, 20 personnes ont reçu Jésus. Est-ce qu'on peut donner le gloire à Jésus? Alors ça, c'est mon introduction. On rentre dans le livre, le cahier numéro 2, page 3. L'épreuve du leadership. Les épreuves de la vie qui révèlent le potentiel et la maturité d'un leader. Sonde-moi, ô Dieu, prouve-moi. Faites passer au creuset mes reins et mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il quelqu'un qui a eu des épreuves cette année? Levez votre main. Y a-t-il des gens qui ont eu des épreuves dans votre église? Levez votre main. Alors, on devrait faire notre leçon ici. Première leçon de cahier 2. L'épreuve, c'est une occasion. Ça, c'est la définition de John Maxwell et c'est excellent. C'est une occasion de mettre les leaders au défi afin qu'ils montrent leur potentiel et leur maturité. Je le répète. La définition, c'est une occasion de mettre les leaders au défi afin qu'ils montrent leur potentiel et leur maturité. Joseph a été mis à l'épreuve. Jacob a été mis à l'épreuve. Gédéon a été mis à l'épreuve. Souvent, on a des épreuves, puis on s'apitoie sur notre sort. Non seulement ça, il y a beaucoup de personnes qui blâment ça sur Dieu. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi qu'il y a eu des blessures? Pourquoi que quelqu'un est mort? Et souvent, les épreuves, on les misinterprète. Mon mentor, Dr. Richard Dobbins, m'a dit un jour, Paul, tu ne vis pas avec la réalité de ta vie. Tu vis avec l'interprétation de ta vie. En autre mot, quand tu vas à travers des épreuves, c'est la manière que vous allez l'interpréter qui va vraiment révéler votre potentiel et votre maturité. Comme mon Isabelle a eu le cancer, Isabelle, ma fille, a eu le cancer à 18 ans. Je vous dis, c'est une épreuve. Est-ce que vous avez eu déjà des enfants malades, comme papa, comme frère, vous avez eu des gens qui ont le cancer? C'est le pire, hein? Le cancer, c'est incroyable. Et ça tuait ma fille. Et je te dis, c'est une épreuve pour moi et ma femme. Même dans ma tête, j'entendais la voix de l'ennemi. Paul, je vais tuer ta fille. Tu penses que tu es un homme de Dieu? Non. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es même pas capable de protéger ta fille. Ma fille, Christine, le numéro 2, elle a commencé, comme on a déménagé à Las Vegas, elle a commencé à avoir des crises d'épilepsie. Mon fils, à 18 ans, il y avait tout le monde devant lui. Les collèges, les universités, ils le cherchaient parce que c'était un vedette du basket. C'était un des meilleurs joueurs de basket à notre ville, puis était reconnu à travers les États-Unis. Et toutes les universités que vous connaissez leur nom, voulaient que mon fils joue pour eux. Mais à 18 ans, la dernière année de l'école, avant l'université, il y a eu une maladie qui s'appelle Guillain-Barré. Il est quasiment mort. Je peux vous compter des épreuves. Quand j'ai hérité notre église, on avait à peu près 200 personnes dans un bâtiment loué. Ça nous coûtait 10 000 $ par mois. Puis quand j'ai accepté la position, ils m'ont dit, « Oh, on a oublié de te dire, mais on n'a pas assez d'argent pour même payer le loyer. » J'avais tout laissé, tout l'argent que je faisais comme conseiller d'aide ou relation d'aide. Je faisais beaucoup d'argent, j'avais une maison de rêve. Mes enfants étaient dans une école privée, mais j'ai hérité l'église. Ils m'ont dit, « Oh, on a oublié de dire, on n'a pas assez d'argent, même pour les salaires. » J'avais tout sacrifié. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé toute ma formation pour être un pasteur. Je n'étais pas formé pour être un pasteur. J'étais un conseiller, relation d'aide. Je connais les épreuves. Après ça, je rentre là. Un de mes anciens a couché avec sa femme et une autre femme en même temps. Un autre ancien a perdu 180 000 $ d'un autre ancien. Et le directeur des Côtes du Manche a couché. Non, il était un accro de drogue. Ça, c'est notre équipe de leadership. J'ai su tout de suite, Paulo, « Seigneur, qu'est-ce que je fais pour grandir une église? » Et la réponse, c'est Paul, « Développe des leaders en santé. » On peut courir après les nombres. « Oh Seigneur, si j'amène Billy Graham chez moi, si j'avais Claudio Freisen, si j'avais un nommé ou quelqu'un, l'église grandissait. » Non, c'est la mauvaise façon de regarder votre ministère. Vous allez grandir votre ministère en faisant quoi? Développer des leaders. Développer des leaders en santé, bien formés. C'est ça qui va grandir votre église. Et vous devez aussi savoir comment gérer les épreuves. On a généré des épreuves. Qu'est-ce que tu fais quand trois de tes anciens sont des gens qui ne sont pas honnêtes, des gens qui sont blessés? Les épreuves montrent trois choses. La pauvreté intérieure. La pauvreté intérieure. En autre mot, quand les choses sont dures, le pire de Paul Goulet va sortir. Les faiblesses de Paul Goulet vont se lever, vont être une démonstration de mes faiblesses si je ne prends pas bien soin de ce qui est dans moi. Parce que dans les temps durs, quand ça chauffe, Hier, j'ai appris un terme que Philippe m'a appris. Fais-moi pas chauffer. Chauffe-moi pas. Parce qu'on était dans la formation de Dijon et quelqu'un a dit quelque chose de très insultant. Et moi, je suis très gentil, je suis très chaleureux, je suis gentil avec tout le monde. Mais cette personne-là était très critique. Ils ont dit quelque chose de très, très méchant. Et j'ai appris le terme. Il ne faut pas faire chauffer Paul Goulet. C'est bon parce qu'on parlait des gens dans nos églises. C'était les 12 exemples des gens qui causent des problèmes à ton église. Et en parlant de ces 12 personnes-là, il y a un qui s'est manifesté. C'est vrai, hein? On s'est amusé parce qu'ils ont vu, ah, Paul est toujours gentil. Mais quand ça chauffe, quand il y a une épreuve, il va bien sortir de cette épreuve-là. Et on a bien sorti de ce temps-là. Même la personne, à la fin, a demandé pardon. Elle a dit, ben, je dois être une personne qui a des maladies intérieures parce que j'ai dit des choses stupides. Ah, oh, je dis, je te pardonne. Pas grave, je te pardonne. Mais si je ne l'avais pas confronté, parce qu'elle a dit, oh non, j'ai rien dit de mal. J'ai dit, non, non, tu as dit quelque chose de mal, mais je te pardonne. Devant tout le monde. Parce qu'elle a dit devant tout le monde. J'ai dit, non, non, non. Oui, tu as dit quelque chose de méchant, mais je te pardonne. Je l'ai dit avec un sourire sur ma figure, oui, sur mon visage. C'est ça le terme précis. Alors, je dis, oui, je te pardonne. Et elle a fait, oh, je te pardonne. Demande-moi pardon. Oui, oui, je t'ai pardonné déjà. Pas grave. Les épreuves vont montrer qu'est-ce qui est dans toi. Deuxièmement, l'équipe, l'équilibre intérieur. L'équilibre intérieur. Moi, je connais des pasteurs, malheureusement, le samedi, tout va bien. Ils ont le culte le dimanche et lundi, ils sont déprimés. Ils ne sont pas équilibrés. Comment ça va, Serge? Je suis déprimé. Pourquoi? Mais il y a 5 personnes qui n'étaient pas au culte aujourd'hui. Puis, ou il y a 10 personnes de moins. Je me sens découragé. Même, j'ai parlé à un pasteur de l'Asie. Grand ministère. Puis, cet homme-là, il est là un jour, puis il est là un autre jour. Il n'y a pas d'équilibre. Alors, finalement, il m'a donné Paul. Il m'a demandé, Paul, qu'est-ce que tu fais pour rester comme tu es? Tu es positif. Tu es plein de joie. Qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai réalisé pour lui. À chaque fois que quelqu'un, s'il y avait 100 personnes de moins dans le culte, il se sentait déprimé. Je dis, mon ami, tu ne peux pas baser ton succès basé sur le monde, nombre de personnes dans ton église. Oui, maintenant, j'ai 5 ou 6 000, mais je me rappelle quand j'avais 100. Je me rappelle quand j'avais 7 personnes dans une étude biblique. Je me rappelle quand j'avais 200 personnes. Je me rappelle de ces jours-là, mais je ne mesure pas. Même quand j'avais 7 personnes dans la classe, j'étais bien. Maintenant que j'ai des milliers, je suis bien. Parce que je ne base pas mon succès sur les nombres. Je base le succès sur l'équilibre intérieur. On devrait être des gens stables, des gens positifs, des gens... Ça va montrer ton équilibre. Troisièmement, les progrès intérieurs. Intimes, je veux dire. Les progrès intimes. Les progrès intimes. Je veux juste faire ça que j'ai bien... Internes. Les progrès... Je n'ai même pas compris mon écriture. Les progrès internes. Voulant dire... C'est pour ça que j'ai fait les 30 jours de formation, parce qu'il y a beaucoup de... internes, oui. Il y a beaucoup de leaders qui ne développent jamais leur vie intérieure. Peut-être qu'ils ont un beau ministère, peut-être qu'ils ont des microphones, des lumières, ils ont le marketing, mais ils n'ont vraiment jamais développé leur personne intérieure. Alors, quand les temps vont durs, ça s'exprime. Je n'ai pas besoin de mentionner les noms des gens qui ont tombé dans les dernières 10 ans. Des grands évangélistes, des personnes que tout le monde reconnaît, ils ont tombé parce qu'ils n'ont jamais pris soin de ça. Oui, il y avait le marketing, oui, il y avait la télévision, mais il n'y avait pas ça. Et quand les choses l'ont testé, qu'est-ce qui était crotté à sortir au lieu de l'équilibre et cet progrès intérieur? Genèse 22, 1 et 2 nous parle de cet Abraham qui a été mis à l'épreuve avec son fils, le sacrifice de son fils Isaac. On va, si on est dans le ministère, même dans la vie même, on va être mis à l'épreuve. On va être testé par les circonstances, par les paroles, par les critiques des autres. Psaume 7, 10, « Toi qui sondes les cœurs, il est rien du juste. » Psaume 17, « Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. » Tu m'éprouves. Pour être une personne qui passe ces épreuves-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Les versets sont très clairs. Pour moi, premièrement, il faut réinterpréter toutes vos épreuves. Problème numéro un, c'est la plupart du temps quand les gens vont à travers des épreuves, l'épreuve est empirée ou ça devient pire parce qu'ils ne savent pas comment bien l'interpréter. Quand Joseph a été battu, mis dans le trou, vendu en esclavage, faussement accusé, trahi, Genèse 50, verset 20. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour le mal? Dieu l'a tourné pour le bon. Hier, il fallait que j'ai licencié quelqu'un de notre ministère sur le téléphone. J'ai donné l'instruction à mon équipe comment le faire et je leur ai montré comment le faire. J'ai dit, il fallait maintenant, et c'est comme ça que tu vas le faire. Et c'était pas facile. C'est jamais facile de licencier quelqu'un parce que j'aime les gens. Mais ça marche pas. Ils n'ont pas monté au niveau qu'on a besoin qu'ils montent pour vraiment additionner et faire quelque chose de beau sur notre équipe. Alors j'ai dit, il faut licencier. Et j'ai dit, il faut le faire maintenant. Vous le faites pendant quand je suis parti. Et c'est comme ça que vous allez le faire. Mais les gens disent, ah, c'est déprimant. Non, c'est pas déprimant. Je réinterprète même les temps où je dois licencier quelqu'un. Il y a un jour, un homme qui s'est fâché contre moi. Actuellement, l'an passé, Polo, un homme qui était très riche à notre église, donnait beaucoup d'argent à l'église. C'était un de mes anciens. Mais tout à coup, il voulait contrôler l'église dans une façon d'entreprise et non une église. Puis il voulait tout contrôler. Et je lui ai expliqué, j'excuse mon frère, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On travaille en équipe ici. On travaille dans la prière et dans la foi. Et un jour, il s'est fâché. On a donné 20 000 $ pour aider un orphelinat aux Indes. L'an passé, on a donné 1,2 million aux missions à travers le monde. 1,2 million qu'on a donné. Mais on passait un temps dur à Las Vegas. Et je venais juste de faire un chèque de 20 000 $ pour les Indes parce qu'il avait besoin d'aide. Il s'est fâché contre moi. Il commence à crier après moi. Dans une réunion d'anciens, crier après moi. J'ai dit, mon frère, donne-moi ta main. Comme ça. Il me donne sa main. Je t'aime. C'est ça que j'ai dit. Je t'aime tellement. Y a-tu quelque chose qui te fâche maintenant? Tu cries maintenant. Tu n'as pas besoin de crier ici. On ne crie pas ici. Ça, c'est pas comment on travaille en équipe. Je viens juste te donner 20 000 $ parce qu'on a... Mais on peut pas le faire. On va être ruinés. Non, non, non. On va semer. C'est ça la différence entre une entreprise et une église. Nous autres, on a la foi. On va semer. En tout cas, cet homme-là, il est parti de l'église. Il a pris tout son argent, sa famille. Ça m'a blessé. Naturellement, ça m'a blessé. Je l'aime beaucoup. Mais il est parti comme ça. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, j'ai perdu quelqu'un, mais au lieu que ce soit négatif, envoie-moi 10 autres mieux que lui. J'ai réinterprété même le fait, « Oh Seigneur, il est parti pour faire de la place pour quelqu'un d'autre. » Quelqu'un de plus fidèle, plus généreux et moins têtu. Est-ce qu'on peut dire « Amen » Mais je connais beaucoup de personnes, c'est la fin du monde. Oh, j'ai perdu. Il payait ses dîmes, j'ai perdu cet homme-là. Ben, laisse-les aller. Donne la gloire à Dieu. Des fois, le Seigneur veut faire un peu de nettoyage avant qu'il fait grandir les plantes. Pasteur, sois pas manipulé par les gens qui partent. Et réinterprète l'étendue. Même des fois, moi, je porte des bracelets parce que pour m'encourager. Parce que durant 2 ans, on vit la récession à Las Vegas. Alors, je combats ça avec des déclarations de foi. Durant la récession, le Seigneur me dit, « OK, Paul, c'est temps d'expansion. C'est temps d'acheter un autre bâtiment pour commencer une autre église. » Seigneur, mais tu comprends pas? Las Vegas est en récession. J'ai des familles qui partent toutes les semaines pour d'autres états. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Il dit, Paul, c'est par la foi, vision. Achète-les. Longue histoire. Finalement, une longue histoire. On a acheté un bâtiment. On a sauvé à peu près quasiment 4 millions de $. Et on l'a acheté pour 3 millions. Et maintenant, on a commencé notre quatrième. On a 9 cultes le dimanche maintenant. 9. Et avec ce bâtiment-là, je pense qu'on a 3 ou 4 sur cette location-là. C'est pas une location, c'est quoi ça en français? Un lieu comme ça, merci. En tout cas, mais durant ce temps-là, je combattais le peur, je combattais les finances. Alors, j'ai créé un bracelet qui dit « Tout est possible avec Dieu ». Et sur l'autre bout, c'est écrit « Vision ». Parce qu'avec toutes les choses, j'écris un en français et l'autre bout en anglais pour mes francophones. Alors, c'est « Vision ». C'est ça que Joseph avait. Il y avait une vision 50-20. « Qu'est-ce que tu as fait pour me faire du mal? Le Seigneur va l'utiliser pour le bon. » Alors, j'ai commencé à déclarer des bonnes choses pour mon église. Est-ce que quelqu'un a besoin de vision maintenant? Je vais te donner ça comme un petit cadeau. Y a-t-il quelqu'un qui le veut? Tiens, ma sœur. Oups. Oh, mon frère, tu l'as eu. C'est à toi. Parce que pour ma sœur, je vais lui donner celui-là. Et qu'est-ce que j'ai vu avec tout le ministère? On a à peu près 600 bénévoles dans notre église. 600, 700 bénévoles. Et c'est, moi, j'appelle ça mes pasteurs. C'est tous les pasteurs de mon église. C'est tous les leaders bénévoles. Mais j'ai vu souvent que les femmes, il y a beaucoup, peut-être pas ici en France, mais les femmes se comparent aux autres femmes. Peut-être pas ici, mais au Canada. Puis les femmes se comparent à la télévision et se comparent aux autres. Et ils se regardent le matin et disent, j'aime pas mes cheveux, garde mes cheveux. Garde mes rides, garde mon nez, garde mes fesses. souvent, les femmes se comparent aux autres et ils ont de la misère à se sentir bien comme une femme de Dieu avec, avec des possibilités, un appel dans la vie. Et souvent même, peut-être pas ici en France, mais aux États-Unis, les femmes ne sont pas toujours pas bien reçues dans le ministère, même où on vit. Alors j'ai dit, on va combattre ça. Alors j'ai fait ça pour ma femme. Elle est belle. Chaque fois qu'elle se sent pas belle, elle regarde le bracelet que je lui ai fait faire. Et sur l'autre côté, c'est écrit, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Pourquoi? On passe toutes des épreuves. Comment tu vas gérer l'épreuve? C'est qu'est-ce qui va montrer ta maturité et qu'est-ce qui est vraiment dans toi. Alors, ma soeur, j'en donne une. Tiens, tu es belle, ma soeur, et on te bénit. Amen! L'autre, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pendant un an, je combats quelque chose qui est bizarre. C'est je me suis fait mal en ski ou je sais pas qu'est-ce que le docteur ne savait pas pourquoi. J'avais une commotion cérébrale, j'ai eu des choses avec ma tête. En tout cas, j'ai le vertige depuis après un an. Vertige et le nausée. Et même ce matin, il fallait que je prie peut-être 2 heures juste pour le fait que je suis ici devant vous. Parce que je combats tous les jours cette vertige et le nausée et cette sens que ma tête va exploser. Et vous dites, ben on le voit jamais? Tu ne le montres pas? Non, je ne le montre pas. Parce que je déclare que... Mais récemment, il y a 3 mois... Tout à coup, je commençais à être découragé. Vous avez déjà eu une épreuve qui a duré pour 6 mois, 9 mois, 1 an. Et pour moi, ça durait depuis, dans ce temps-là, 9 mois, j'avais ce vertige-là. Alors, j'ai dit à mon associé, fais-moi un bracelet pour moi, Paul Goulet, qui est écrit courage. Parce que l'opposé de le mot décourage, ça veut dire le manque de courage. Mais moi, je ne veux pas être découragé, je veux être encouragé. Alors, sur l'autre côté, c'est écrit « Fear not » ou « N'ayez pas peur parce que je suis avec toi », le livre de Joachim. Alors, j'ai fait ça parce que je voulais avoir du succès à travers de l'épreuve que l'épreuve de physique que j'ai eue. Alors, qui veut un peu de courage ici? Tiens, ma soeur, cadeau pour toi. Je fais n'importe quoi pour réussir à travers mes épreuves. Ce qu'on doit faire, mes amis français et mes pasteurs leaders, à travers les épreuves, c'est ta chance de vraiment briller. C'est ta chance de vraiment démontrer quelque chose de bien. Alors, Jean nous donne 5 choses. La vérité sur les épreuves. Numéro 1, nous connaissons tous des épreuves à tous les stades de notre croissance. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai hâte que j'aurais plus d'épreuves. » On aura toujours des épreuves. Le pasteur d'une église de 50 et le pasteur d'une église de 6000. Le leader d'un ministère de 2 personnes et le leader d'un ministère international. Vous avez toujours à voir des différentes épreuves à différents stades de votre vie. Il y a quelqu'un qui me dit un jour « Différentes nouveaux, différentes démons. » C'est vrai, les démons ou les épreuves que je fais face maintenant, c'est pas les mêmes que je faisais face quand j'ai pris l'église, quand c'était une église de dysfonction. Les épreuves sont différentes maintenant. Il faut que je sache comment gérer. Et l'ennemi nous dit que c'est le seul qui va à travers ces épreuves-là. Non, on va toutes à travers des épreuves qu'elles comptent à différents stades de notre vie. Deuxièmement, notre doit être de réussir toutes les épreuves. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je vais réussir toutes les épreuves de ma vie? Je devrais les confesser tous les jours. Non, je vais passer ces épreuves-là et je vais briller pour Jésus. Ça est quelque chose d'incroyable, un témoignage pour Jésus. Troisièmement, l'épreuve précède toujours un progrès. L'épreuve précède toujours un progrès pour ta vie, ta famille, ton ministère. Alors dis-toi, oh, je vais avoir beaucoup de progrès dans ma vie. Dites-le avec moi. Je vais avoir beaucoup de progrès dans ma vie. Si vous avez des épreuves, c'est parce que vous allez avoir beaucoup de progrès dans cette saison de ta vie. Quatrièmement, le développement personnel ou les promotions d'origine humaine ne sauraient remplacer l'avancement de Dieu. Le développement personnel ou les promotions d'origine humaine ne cessent de remplacer l'avancement de Dieu. À travers toutes tes épreuves, il y a une promotion qui va arriver dans ta vie et ça vient de Dieu. Ne sois remplacé l'avancement de Dieu. Récemment, j'étais en Asie et j'étais en Malaisie, Indonésie et Singapour. Et un jour, ils m'ont dit, il faut te ramasser à 5 heures du matin pour le vol. J'ai dit, OK, c'est dommage. Je me suis couché tard, mais il me rappelait, il dit, non, Paul, laisse faire, on va te ramasser vers 7h15. Mais je dis, vous ne comprenez pas, le vol, c'est à 8h20, je pense. Il faut être là au moins 2h20. Non, on prend soin de tout. OK. On va te ramasser par hélicoptère et on va t'amener directement à l'avion. Et on va prendre soin, c'est le tarmac, c'est ça. On va prendre soin de tout. J'étais sur l'hélicoptère, ça m'a pris 5 minutes à me rendre là. Il y avait déjà mes bagages dans l'avion. Il y avait déjà le passeport et les choses pour rentrer dans l'avion. Tout était pris parce que j'avais eu la chance de toucher la vie d'un homme. Il y a déjà 7 hôpitaux maintenant, et il commence 25 autres dans les prochains 2 ans. Il les achète, il les redéveloppe. C'est un homme avec beaucoup de succès en Indonésie. Puis je me pinçais, Seigneur, tu m'as donné un avancement dans ma vie. J'ai rien fait pour mériter Les bénédictions comme ça.
Alors, j'ai 20 ans, je voulais me tuer. J'étais tellement déprimé de ma vie, je voulais me tuer. Maintenant, j'ai 53 ans. Il y a des choses qu'il a faites dans moi, parce que je me connais. Hein. Je connais toutes mes faiblesses. Mais il a fait des avancements dans ma vie que même je m'arrête des fois pour l'eau, je me dis, Seigneur, t'es tellement bon. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Même le fait que je suis devant vous aujourd'hui, je sais que je parle mal le français. Je sais qu'il y a des gens beaucoup plus meilleurs orateurs que moi, mais vous savez, c'est un honneur d'être avec vous autres. Parce que si le Seigneur peut utiliser comme quelqu'un comme moi, il peut certainement utiliser quelqu'un comme toi. Comprenez? Comprenez mon cœur? Je vous aime tellement. Et je me pince, c'est-tu incroyable que le Seigneur m'utilise en France? Pourquoi qu'il m'a choisi? Pourquoi qu'il a choisi quelqu'un? Il aurait pu choisir quelqu'un avec des doctorats, quelqu'un avec toutes sortes d'habiletés françaises, mais il a choisi un petit gars qui vit à Las Vegas. Il n'y a pas longtemps, il y a le Journal de Montréal et une émission au Québec. Et le Journal de Montréal, il m'a appelé, il dit, je veux interviewer Paul Goulet. Alors, il est venu me voir. Il dit, je comprends pas ça. J'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a deux Québécois à Las Vegas qui animent le plus de gens ou qui reçoit le plus de gens toutes les semaines. Toi et Céline Dion. Il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Il était défensif parce que c'était un peu un chrétien. Il voyait la grande église et toutes les choses. J'ai conté l'histoire de ma vie à la fin. Il commence à pleurer. Il a écrit un article sur ma vie dans le Journal de Montréal. Toute une page. Ah, vraiment des éloges, des compliments. Mais je me pince. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est la grâce de Dieu. Mais je vous garantis, j'ai été à travers des épreuves. J'ai été aimé, maintenant je vois à travers des épreuves. Mais je veux prier pour Jésus. Cinquièmement, de même qu'on n'utilise pas un produit avant qu'il n'ait subi un certain nombre de tests. Nous aussi, on va aller à travers de ces tests-là. Et même ces définitions-là sont à la fin de votre chapitre-là. Alors, si vous manquez quelque chose, allez à la fin et vous pouvez compléter cette chose. Mais c'est quelle page? Page 8. Tout produit est testé avant d'être utilisé. Alors, si vous allez à travers des tests, comme récemment, j'étais en Indonésie et Malaisie, et quand j'étais en Malaisie, ils disent, Paul, on sait que tu aimes ça aller aux encans et aux markets, et c'est des produits pas chers. Alors, rendu là, on voit des Rolex. Mais c'est pas des vrais Rolex. Tu achètes ça pour 15 euros, et vous savez, c'est pas la qualité d'un Rolex. Tu peux même pas voir la différence quand tu le regardes. Mais je n'ai acheté beaucoup il y a des années avant que j'aie eu la conviction que j'aurais pas dû le faire. Au début, j'achetais beaucoup de Rolex qui étaient à défaut. J'ai une conviction de Dieu que c'était pas bien. Mais ça n'a pas duré. Toutes ces Rolex-là n'ont pas duré une semaine, deux semaines, trois semaines parce qu'ils n'ont pas été testés. Et même récemment, j'étais là, il y avait des habits, il y avait des Hugo Boss, il y avait des Lacoste, il y avait toutes sortes de choses. Mais après une semaine ou deux, tu vois que ça commence à. Les boutons commencent à tomber. les couleurs commencent à Oui. Et c'est parce que ça n'a pas été testé. Mais je connais beaucoup de chrétiens. Vous savez comment ils se sentent quand ils vont à travers des épreuves? Ils se sentent coupables parce qu'ils vont à travers des épreuves. Ben, je ne dois pas être un bon chrétien. C'est pour ça que je vais à travers des épreuves. Je ne dois pas être doué parce que je vais à travers des épreuves dans ma vie maintenant. Peut-être que je ne suis pas un bon papa, une bonne maman parce que mes enfants vont à travers des temps durs. Et on reçoit de la culpabilité au lieu de courage pour foncer même plus. C'est ça que j'ai vu. Avec la plupart des pasteurs et leaders, ils se sentent coupables pour les épreuves. Ils se blâment. Au lieu, comme Joseph, qu'est-ce que tu as fait pour me blesser? Le Seigneur va utiliser pour le bon. Alors, je pense qu'il y a 8 choses ou 10 choses, 10 tests qui révèlent la capacité à être un leader. Alors, j'aimerais que tu te tournes vers un de tes amis et dites-leur maintenant, un des épreuves à travers où vous avez été cette année. Alors, durant les dernières 12 mois, c'était quoi l'épreuve que vous avez faite face? Regarde ton ami et dites-leur maintenant. OK, dites-leur maintenant comment vous avez interprété cette épreuve-là. Comment vous l'avez interprétée? Comme une chute personnelle ou comme un acte de Dieu ou comment vous l'avez interprété?
Wow! Gloire à Dieu!
Et Roger, il y a eu une épreuve cette année. C'était quoi l'épreuve, mon frère?
Donc, c'est concernant mon église. Donc, comme on est jeune, c'était un problème financier. Mais Dieu a résolu ce problème. Voilà, donc, c'est les épreuves. Mais Dieu est capable de tout faire. Je vous encourage, vous qui êtes leader, d'être vraiment confié en l'Éternel et remettre toutes choses dans la main de Dieu. Et quand on prie Dieu nous entend. Il connaît les charges qu'il nous donne. Oui. C'est pas nos charges, mais c'est son charge. Alléluia.
Et l'épreuve que tu avais, c'est que tu n'avais pas d'argent pour payer le loyer de. Et tu allais perdre de. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé?
Donc, il y a un moment, comme on vient d'entrer dans les locales, Mais il y a les 3 mois qui sont très difficiles. Après, on paye les cautions, tout ça. Vous connaissez bien chose. Et puis, tout de suite, on vient d'arriver. Et puis, le propriétaire dit, il envoie une mise en demeure, tout ça, presque par Internet. Et là, j'ai pris Dieu. J'ai mis Dieu devant les choses. Et donc, et c'est comme ça, le Seigneur a répondu ma prière. Donc, il a envoyé les secours. Il y a une première porte qui a été fermée. Il y a une deuxième qui a été fermée. Et c'était très difficile. Donc, les gens qui peuvent capables de nous aider, donc un seul coup, ça change. Mais un jour, il a une troisième porte, laissez ouvert la porte pour la gloire de Dieu. Donc voilà, donc c'était vraiment la main de Dieu. Et pour entrer dans cette locale, c'était la main de Dieu, parce que j'ai signé le bail sans donner un centime. Et ils m'ont donné 3 mois pour payer après. Donc on n'a jamais vu ce genre de choses, qu'on rentre dans les locales. Il nous donne 3 mois pour payer. Après, bon, c'était vraiment, c'était la main de Dieu.
Est-ce qu'on peut célébrer avec Roger? Oui, il y a eu une épreuve, hein? Quand tu n'as pas l'argent, je n'avais pas l'argent non plus pour payer 10 000 $ par mois. On ne l'avait pas. Mais j'ai été mis à l'épreuve. Qu'est-ce que j'allais faire? Je me rappelle, j'ai appelé un des anciens de notre ministère, et pas notre ministère, mais de la dénomination avec laquelle on était associé. J'ai dit, mon frère, c'était un peu vieux, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ils n'ont même pas d'argent pour payer le loyer ni les salaires. Est-ce que je peux arrêter le support missionnaire? Juste pour au moins pour 1 mois, 2 ans. Il me dit, non, Paul, tu ne peux pas arrêter d'aider les missionnaires. J'ai dit, mais on ne peut même pas payer notre loyer et les salaires. Il dit, non, il faut que tu ailles la foi, Paul. On n'a jamais manqué un don missionnaire. On n'a jamais manqué de loyer. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? L'épreuve! OK. 10 choses, test, qui révèlent la capacité à être leader, ainsi que la maturité de la personne. Numéro 1, des petites choses. Le test des petites choses. Wow! Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Il y a beaucoup de gens, Paul, tu as hérité un grand ministère. Non, j'ai hérité une église de dysfonction. Paul, tu as toujours eu des rêves de parler devant des grands groupes. Non, j'avais le rêve d'aider une personne à la fois, comme un conseiller de relation d'aide. Je n'avais pas des grands rêves de changer le monde. Je voulais simplement être fidèle à aider des gens blessés, comme j'étais blessé. Paul, si tu es fidèle avec un homme, je vais te donner 2. Je me rappelle quand j'ai commencé, un pasteur m'a dit, Paul, est-ce que tu ferais l'école de dimanche? J'ai dit, je me soumets à toi. Parce que j'étais confiant, 1 à 1. Aider quelqu'un blessé. Mais faire une école de dimanche devant les gens, j'étais trop insécure, j'avais trop peur. Alors il me dit, Paul, fais-moi un faveur, prends une école de dimanche pour les adultes. Les personnes qui ne sont pas mariées. J'ai dit, OK, je vais le faire. Première classe, 7 personnes. 7 personnes. J'avais tellement peur. Le dimanche après, encore 7. Et à chaque dimanche, j'avais peur que personne ne viendrait à l'école de dimanche avec moi. À la fin, je pense qu'on avait 11. Gloire à Dieu, on a grandi. Là, j'étais comme ça. Oh, gloire à Dieu. J'ai pas failli, Seigneur. Merci, j'ai pas failli. J'avais tellement peur. Et il revient me voir. Paul, tu prendrais-tu une autre classe pour moi? Mais je disais, dans quel sujet? Il dit, je veux que tu travailles avec les gens mariés. Tu l'as fait avec les gens qui ne sont pas mariés, mais fallait avec les couples. J'ai dit, OK. Combien de semaines? Je pense que c'était 6 semaines en fil ou 8 semaines en fil. OK, je vais le faire pour 6. Je vais prendre une chance avec une petite classe de mariés. Il y avait 25 personnes qui étaient là le premier dimanche. 12 couples et une autre personne. 25 personnes. Le deuxième dimanche, j'étais terrifié. Alors, j'ai décidé, je vais m'acheter c'était comme des beignes. Vous avez des beignes ici en France? C'était comme des croissants, des choses. Des beignets. Et alors, je venais tôt, j'ai trouvé quelqu'un qui jouait le piano. Je dis, OK, j'ai tellement peur de faire mais j'aime ça donner des louanges à Jésus. Alors, on va commencer la classe, juste les 3, on va manger des donuts, on va manger des beignes. Et après ça, on va commencer la classe avec un peu de louange. Et je me rappelle, dimanche après dimanche, j'étais terrifié.
Et un jour, on mangeait nos beignes et on pratiquait une des chansons qu'on avait chantées dans l'école dimanche. Et tout à coup, je vois des gens courir en dehors de la porte. Et j'ai ouvert la porte, j'ai vu des gens courir. Je suis sorti, j'étais curieux. Je dis, où est-ce que tu vas? Il dit, on ne veut pas manquer de place à un cas dimanche, on va courir pour prendre une bonne place. Puis j'étais fâché. Pourquoi je ne pourrais pas aller à une école de dimanche comme ça? Pourquoi j'ai besoin de faire une école de dimanche? J'aimerais mieux aller à cette classe-là avec quelqu'un qui est bien formé, qui savent de quoi il parle. J'aimerais, Seigneur, aller là au lieu de il faut que je fasse ça. Je lui ai donné 8 semaines. J'étais fâché. Alors je lui dis, mais quelle classe? C'est qui le professeur? Il dit, c'est un nommé Paul Goulet. Je me suis dit, mais c'est moi, Paul Goulet. Tu te trompes pas? Non, c'est l'école. Tout le monde parle de cette classe-là. On a grandi de 25 jusqu'à 400. Si j'étais fidèle avec une personne, il m'a donné 7. J'étais fidèle avec 7, il m'a donné 11. J'étais fidèle avec 25 personnes, il m'a donné 400 personnes. J'étais fidèle avec 400 personnes, il m'a donné 500. Après ça, il m'a donné 1000. Après ça, il me donnait 2000, 3000, 4000, 5000. Chou, 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 chou. Est-ce que vous êtes fidèle avec les petites choses? Et souvent, je connais beaucoup de pasteurs, ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas un grand ministère. Attends, sois fidèle. C'est une épreuve. Mais le Seigneur va souffler sur toi parce qu'il aime se trouver des gens fidèles. Quand j'ai pris l'église à Las Vegas, on était à 200. Très vite, on a grandi à 400. Très vite, on est redescendu à 300. Je me suis senti comme le pasteur le plus médiocre, le plus nul, comme on dit en France. Je me sentais nul. On avait perdu 100 personnes dans une couple de semaines. Je dis, Seigneur, je ne suis pas appelé à ça. Je suis une personne de relation d'aide. Je ne suis pas un pasteur. Pourquoi tu m'as appelé à... Tu pourrais appeler quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus mieux formé que moi. Mais il m'a dit, Paul, sois fidèle avec le peu que tu as et je te donnerai plus. Mais c'est une épreuve, hein? Tu passes tes temps durs. Deuxièmement, c'est le test de motivation. Ce test touche celui qui fait le bien. Il va révéler pourquoi il agit ainsi. Oh, tes motivations vont être touchées. Quand j'ai commencé à venir ici pour faire des formations d'équipe, c'était John Maxwell qui m'a demandé. Il m'a dit, Paul, tu ferais-tu un faveur pour moi? J'ai dit, oui, Jean. Parce que j'avais lu ses livres. Il m'a beaucoup impacté. Et ce jour-là, on jouait au golf ensemble. Il dit, fais-moi un faveur. J'ai dit, oui. Il dit, est-ce que tu commencerais les formations en français pour moi? Parce que je n'ai pas un autre francophone que je connais qui pourrait faire les formations de leadership. Et j'ai dit, oui. Mais il dit, oh Paul, je ne te l'ai pas dit, mais il faut que tu payes à peu près, quoi? Première coupe d'année, c'était à peu près 10 000 euros par mois. Pour aider le ministère à commencer ici. 10 000, oui, 10 000. C'était, oui, c'est ça. Non, 12 000 par année. 12 000 euros par année. Et en plus de ça, il fallait que je paye pour mon propre vol ici, il fallait que je paye pour mon hôtel. Au début, je payais pour tout. Juste pour développer l'idée d'équipe ici en France. Parce que les gens disaient, oh, c'est américain. Je disais, non, c'est pas américain. C'est pour aider tout le monde, francophone, canadien, ça fait rien. Alors, au début, c'était tout sacrifié, sacrifié, sacrifié. Et je parlais devant les groupes et j'essayais même de parler en français. Et un jour, un homme, au début, vient me voir. Il dit, Pasteur Goulet, j'ai dit oui. Il dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai dit oui, absolument. Il dit, je t'inviterai jamais à ma ville. J'ai dit, OK. J'étais surpris. Hein? Il dit, j'ai même pas demandé pourquoi. Je voulais pas lui donner la chance. Il dit, parce que nous autres, on invite seulement les vrais orateurs. Après ça, il y a une autre personne qui me critiquait parce que à cause de mon français. Un autre qui me critiquait parce que j'ai fait des erreurs en français. Parce que je fais beaucoup d'erreurs. Je ne peux pas vous dire les erreurs en français, mais je vais vous dire une. Mais vous ne pouvez pas le répéter. Récemment, j'étais chez Michel Bervert. Il y a une bonne église. Il m'a demandé, Paul, tu viendrais prêcher une couple de jours pour moi, tu ferais une conférence de cet esprit, tu vas faire le culte du dimanche. Oui, je dis, oui, on est des amis, je vais le faire. Et je contais une histoire où un jour, Claudio Frazen, vous connaissez Claudio, un homme incroyable, il priait pour moi. Et quand il a prié pour moi, il ne m'a même pas touché, mais j'ai tombé sur mes fesses. Mais quand j'ai dit fesses, les Français m'ont regardé un peu croche. Et souvent, je me dis, j'ai peur d'utiliser des mauvais mots. Alors, j'ai dit, oh, pardonne-moi, mes amis, parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein? C'est plein. J'ai dit, pardonne-moi, j'ai utilisé le mot fesses, je n'aurais pas dû, peut-être c'est pas poli ici. OK, je vais utiliser un autre mot. Alors, j'ai utilisé le mot qu'on utilise au Québec quand on parle des petits fesses des enfants. Vous savez, vous avez des petits-enfants ou des enfants, vous avez des enfants. Et au Québec, quand on parle des fesses des enfants, on ne dit pas fesses, on dit foufoune. Oui, je sais. Et c'est ça qui est arrivé quand je l'ai dit. Je venais juste de m'excuser parce que j'ai dit fesses. J'ai dit le mot du Québec, ça veut dire les fesses d'un bébé. C'est très poli au Québec. Ça, c'est le plus poli que tu peux être. Et quand je l'ai dit, tous les Français ont commencé à rire, les autres faisaient comme ça. Le pasteur m'écrit, le pasteur Michel m'écrit une note. Et je lis, parce que tout le monde riait, les autres. J'étais comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il écrit une note. Et le note disait, c'est le sexe de femme. Puis je lui demande, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En tout cas, par ce temps-là, tout le monde riait. C'était dur de ramener à la parole de Dieu. Mais on riait ensemble et la fête, tout le monde a été touché par la présence de Dieu. Mais la chose que je veux dire, c'est, vous allez être testé par des petites choses, mais aussi votre motivation va être touchée. J'impose aussi pour l'argent. Je suis bénévole. Et récemment, j'étais à Dijon il y a une couple de jours et je leur disais, vous savez, j'avais dit 3 ans, c'est tout. Je vais faire 3 ans pour la France. Je me donne comme bénévole pour parce qu'ils ne me payent pas pour ça. Alors j'ai dit, je vais le faire bénévole pour 3 ans. Après ça, je retourne faire les autres choses que je fais à Las Vegas. Mais le Seigneur m'a touché pour Paris. Ils m'ont demandé, est-ce que tu nous aiderais à commencer Paris? J'ai dit oui. J'ai prié, j'ai dit oui, je vais le faire. Mais c'était vraiment tester mes motivations. Parce que je ne le fais pas pour l'argent. Je ne reçois rien pour le faire. Je le fais parce que je vous aime. Parce que j'ai été impacté par cette formation-là. Et j'aime la France. Et je crois qu'il y a une réveil qui vient pour la francophonie. Je le crois. J'étais avec Marcos et un nommé Néné. Vous connaissez Néné? Numéro 10 pour PAG. Néné. Je sortais de la chambre, 20 personnes ont accepté Jésus. Il y avait cette couple-là français qui me regardait comme si je venais d'une autre planète. Mais à la fin, elle puis son mari a levé leurs mains pour accepter Jésus. Et à la fin, je disais bonjour à tout le monde parce que j'aime ça. Et la femme m'a dit, elle a dit, vous avez vraiment bien fait. Je dis, merci beaucoup. Elle a dit, tu pourrais convertir. C'est une rocher. Une roche ou une rocher? Tu pourrais convertir une rocher. Une roche. Un rocher. Je dis, merci. Mais notre motivation va toujours être touchée. Alors à Dijon, je dis à tout le monde, vous savez que je fais aussi Paris. J'ai aussi commencé Québec, anglais et français. Et j'ai aussi envoyé quelqu'un pour commencer la Suisse. Ça fait 5 places que j'ai commencé. Vous savez combien qui me payent maintenant? Ils ont dit, ben combien? J'ai dit 2 fois plus qu'avant. 2 fois 0, c'est 0. Mais ma motivation est testée. Vous êtes testés. C'est pour ça les épreuves. Troisièmement, vous êtes testés de gestion. Ce test montre si nous gérons les ressources qui sont à notre portée avec des stratégies générosité, gestion. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut gérer qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Ou est-ce qu'on est jaloux parce que le Seigneur a donné plus à quelqu'un d'autre? Vous avez 10 personnes, vous allez les traiter, vous allez former des leaders, vous allez les bénir parce que le Seigneur dit, « Oh, tu es capable de former des leaders avec 10? Je donne 20 ou 100 ou 100, 500. » C'est une question de gérer qu'est-ce que le Seigneur nous a donné. que ce soit le peuple de Dieu ou que ce soit l'argent. Est-ce que vous êtes fidèle à gérer ce que le Seigneur vous a donné? Ça, c'est une épreuve. Et malheureusement, mes amis, l'épreuve énorme pour moi, ce n'était pas de gérer les temps où je n'avais pas d'argent, les temps où je n'avais pas de gens. Parce que là, tu demandes à Dieu tous les jours, « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi! » Mais quand les choses vont bien, tu as beaucoup de succès, tu as beaucoup de demandes de prêcher ici, puis là, tout va bien. Ça, c'est le test ou l'épreuve le plus sérieux pour moi. Et malheureusement, je connais beaucoup de personnes que si je mentionnais leur nom, je les connais, c'est mes amis. Ils ont tombé. Pas à cause de l'épreuve des temps durs, mais la question de gérer qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont mal géré la bénédiction de Dieu. Ils ont mal géré les ressources du Seigneur. Puis finalement, ils n'ont pas passé cette épreuve-là. Parce que les épreuves ne sont pas toujours négatives. Des fois, c'est des épreuves de bénédiction. Et on ne sait pas comment gérer les épreuves de bénédiction. Quatrièmement, le test du désert. Ce test arrive quand on est trop sec sur un plan spirituel pour être en mesure de révéler ses capacités de changement et de croissance du désert. Je vis dans le désert. Quand mon fils avait 19 ans, il dit, « Papa, je veux déménager dans le désert comme Jean le Baptiste et je veux être là pour 30 jours. Je veux jeûner et je veux aller chercher Dieu pour 30 jours dans le désert. » Sinon, mon fils Samuel, tu ne vas pas y aller. Parce qu'après 2 jours, tu vas probablement mourir. Parce que notre désert, c'est des déserts de 35 degrés, 45 degrés. Il y a des scorpions, il y a des serpents empoisonnés pour tuer comme ça. Et la chaleur même peut tuer dans 24 heures, tu peux mourir. Les gens, quand ils nous visitent, parce que cet été, tous les étés, on ouvre notre église et notre ministère 2 semaines pour les francophones. On appelle ça Transformation 2012. On a fait les 2 dernières années. Puis je pensais que ce serait les ados. Mais finalement, les gens qui viennent, c'est la plupart, c'est les pasteurs, les femmes de pasteurs, maris de pasteurs, c'est les leaders. C'est drôle, je pensais que ce serait un groupe de personnes. Ça finit par être un autre groupe de personnes. Oui, on a des fois des ados, mais la plupart des gens qui viennent avec nous pour 2 semaines de formation, c'est les leaders. Parce qu'ils veulent goûter au réveil à Las Vegas. Et vu que c'est en français, c'est vraiment quelque chose de drôle. Alors, je parle toujours français. Mes amis français, vous ne vivez pas dans le désert. Moi, je vis dans le désert. Et j'ai donné des avis. Si vous allez là, sans l'eau, sans un copain ou une copine avec toi, tu peux mourir dans 5 heures. Il faut vraiment, premièrement, il y a des bibittes, il y a des serpents, il y a la chaleur, et vous vivez en France. Peut-être que tu as déjà des dérangés en France, mais il n'y a pas le désert comme ici. Il y a des gens qui disent, t'as-tu déjà été à travers un désert spirituel? Pas pour longtemps. Parce que je refuse de rester là. On a tous passé les épreuves de désert, mais moi, je ne reste pas là. Peut-être qu'il faut que j'aille voir mon ami Philippe qui l'impose les mains sur moi. Peut-être qu'il faut que j'aille pour la relation d'aide. Peut-être qu'il faut que j'aille aux plateformes sur mes genoux pleurer. Peut-être que j'ai besoin de jeûner, mais je ne reste jamais longtemps dans le désert. Mais je connais des chrétiens qui me disent, « Oh, je suis dans le désert depuis 3 ans. » Pourquoi tu restes là? Fais quelque chose! Va voir mes amis en Argentine. Va à Las Vegas. Va faire quelque chose pour sortir de ce désert-là que tu vis. Je comprends ça. J'ai vécu des déserts, mais c'est jamais pour longtemps. Parce que je refuse de rester là. Quelqu'un m'a dit un jour, « Paul, quand tu vas à travers l'enfer, arrête pas. Continue à foncer en avant. » Je connais des gens qui sont en enfer, puis restent là. Ils font pas les étapes pour sortir de là. C'est pour ça, vous êtes. Regarde quelqu'un à côté de toi et dites-leur, t'es tellement intelligent, t'es tellement beau, t'es intelligent, t'es incroyable. Dites-leur maintenant, t'es beau, t'es intelligent, t'es. Je te rassure, toi aussi. T'as de l'air beau avec tes cheveux, j'aime tes cheveux. C'est le moderne, c'est ça. Tu aimes ça, hein? C'est vrai. C'est un test du désert. Sortez du désert. Vous êtes ici à l'équipe, je vous garantis. Ça va avoir un impact dans votre vie. Je vous le garantis. Si vous appliquez les principes, vous allez changer. Vous allez sortir de ce désert-là. Demande à Robert, demande à Paulo, demande à Philippe, demande à n'importe qui a fait ce trajet-là avec nous. Il sort du désert. On a pris une petite église de 50 personnes aux Indes, 9, 10 leaders. On a commencé à montrer ces principes-là, aussi les principes des leaders en santé. Je vais vous parler de ça demain peut-être. Et maintenant, c'est une église de 6000 personnes. Ils ont sauvé 1800 des bidonvilles. On a commencé des écoles, un orphelinat à cause du fait qu'on a pris un homme et on a versé dans lui des principes comme ça et l'onction de Dieu. Et maintenant, il change. Les gens des Indes m'appellent, on a besoin de Paul Goulet. Je dis, non, tu n'as pas besoin de moi. J'ai quelqu'un de beaucoup mieux que moi. Il s'appelle Yvan, il vit aux Indes. Il parle votre langage, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez, si le temps de désert, vous pouvez sortir. Cinquièmement, de crédibilité. Crédibilité. Ce test dévoile nos capacités et notre intégrité afin de voir si nous avons recours au compromis lorsque nous sommes sous pression. Sous pression. J'ai découvert quelque chose ici en France. Beaucoup de pasteurs et leaders sont en pression. Ils sont pognés dans une place très dure. Peut-être même, il me semble que vous êtes dans un désert. Mais si vous êtes pressé, quand vous êtes pressé, qu'est-ce qui va sortir de vous? Qu'est-ce qui va sortir de vous durant ce temps d'épreuve? Mais s'il y a quelque chose de bon qui sort de vous, le fait que Philippe a dit que j'ai fait les 3 ans à Dijon, on l'a fini. À la fin, il y a des pasteurs qui sont venus me voir en pleurant. Merci Paul. Merci Philippe pour le fait que tu as passé 3 ans. 3 ans avec nous autres. Merci. Ils pleuraient. Paul, est-ce que tu peux aller? Ils commençaient à me dire leur vision de leur ministère. Tu viendrais-tu ici avec moi? Ils commençaient à mentionner les pays que je ne connais pas des fois, mais Philippe les connaît. Et ils commençaient à compter l'histoire. Un autre pasteur m'a dit, Paul, à cause de ce que tu as fait, récemment j'ai été en Afrique centrale, je pense, et j'ai fait une conférence pour 500 pasteurs leaders. J'ai pris ce que tu m'as montré, je l'ai fait maintenant. Ça m'a touché le cœur. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un temps de vraiment crédibilité. Quand les choses vont dur, c'est ta chance de briller. Tu ne vas pas lâcher. Tu vas être une femme de Dieu, un homme de Dieu. Même quand les choses sont dures. Une fois, j'ai été frappé par un moto de neige et ils ont cassé ma jambe était complètement cassée. Je l'ai quasiment perdue. Et la première, c'était un samedi, le dimanche j'étais à l'hôpital, le dimanche après j'étais dans une chaise roulante et j'ai prêché. Je me sentais malade, les gens me disaient que j'étais tout vert parce que j'étais en tellement de douleur, mais je ne voulais pas donner position au démon. Il voulait me tuer, j'allais lui dire, même si je suis dans une fauteuil à une chaise roulante, je vais prêcher la parole. Notre église, cette année-là, a doublé. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a des fois, ça ne me tente pas d'aller à l'église. Il y a des fois, ça ne me tente pas d'être bénévole. Il y a des fois, ça ne me tente pas de donner. Mais quand mon pasteur a été frappé par un moto de neige, et le dimanche après, il était là à l'église, donnant de son mieux, même qu'il était en douleur. Si lui est capable de faire, tout à coup, je suis allé d'un pasteur à quelqu'un qui avait de crédibilité. Parce que j'ai passé à... Vous comprenez? L'épreuve. On va finir cette leçon-là dans le prochain... après un petit break. Mais on a 10 minutes de questions. Alors, parce que le break commence à 4 heures. Alors, on a 10 minutes que tu peux me demander absolument, et je suis sérieux, n'importe quoi. Si ça fait application à ce qu'on parle maintenant, c'est mieux. Mais... J'aime ça répondre à des questions si je suis capable. Alors, est-ce que tu veux modérer ça? Comment est-ce qu'on dit ça en français? Gérer ça. Pas modérer. Ça, c'est anglais. Un anglicisme. Hein? Ça fonctionne-tu? Tiens, chef.
OK. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, vous n'avez pas de questions. Ça, alors? Tout va bien, alors? Bon, ben, Pasteur Paul, il n'y a pas de questions.
Oh, il n'y a pas de questions du tout? Donc, je peux terminer?
Vous voulez qu'on termine?
Je peux continuer à foncer pour 9 autres minutes? Oui?
Ben ouais.
Ah, il n'y a pas de questions, Capitaine?
OK.
Oui, parce que je voulais me soumettre à l'homme de Dieu, parce qu'il m'a dit, donne à peu près 10 minutes de questions. OK, sixièmement, autorité. Voilà un test qui va révéler votre attitude et votre soumission volontaire aux autorités que Dieu a instaurées. Je ne sais pas si les gens ici en France, il y a des problèmes de fierté. Mais je te dis, les Québécois, on est fiers puis on est têtus. Peut-être pas les Français ici, mais oui, personne ne nous dit quoi faire. On est autonome. Mais même ici, je me soumets à l'autorité ici. Même le fait que je fais John Maxwell, je ne suis pas venu ici pour faire les choses que j'aime faire personnellement. J'ai écrit beaucoup de livres et on a des formations de santé pour t'aider à former des leaders en santé dans ton église. Parce qu'une église qui a des leaders en santé va grandir. J'ai tout fait une formation que c'est vraiment la base principale de notre église. C'est des leaders en santé. Mais je ne le fais pas ici. Parce que je suis venu ici pour aider Jean et Équipe France. Je me soumets. Mais des fois, dans nos réunions, les pasteurs me disent, Pasteur Paul, je sais que tu es un homme de puissance et tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Pourquoi qu'on fait, on fait pas plus des réunions du Saint-Esprit? Parce que je suis un homme en soumission. Je suis venu pour faire des formations de leadership. C'est ça que je fais. D'autres temps, je peux faire quelque chose d'autre, mais je suis ici en soumission complète. Et quand tu es soumis, wow! On pense que se soumettre aux autres, ça va nous arrêter. Ça ne va pas nous arrêter. Ça va nous aider à toucher le ciel. Amen. Ça, c'est un test. Je me rappelle, j'étais à une église et je voulais commencer des études bibliques comme dans des maisons. Et je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, on sent vraiment une couple de nous. On sent vraiment qu'on devrait faire des cellules d'amour et des études bibliques à la maison. Il dit, non, pas maintenant. J'ai la même vision, mais on va commencer dans un an ou six mois. Alors, Paul, il faut pas que tu le fasses maintenant, mais on va tout être formés ensemble et on va le faire ensemble. C'était dur de me soumettre. C'était dur parce que je savais que c'était Dieu, mais il fallait que je me soumette à mon pasteur. Une autre chose est arrivée, Paulo. Quand je travaillais à l'église, j'ai commencé le centre de relations d'aide et j'ai fait les écoles de dimanche et j'avais 7 qui a grandi à 400. À 400, il y avait des gens qui étaient jaloux. Je sais qu'il n'y a pas de jalousie ici en France, mais il y a des jalousies aux États-Unis. Les gens, même des pasteurs, étaient jaloux de moi parce que j'avais 400 personnes tous les dimanches matin. 400. Et c'était juste une étude biblique. Alors, les gens ont commencé à parler contre moi à mon pasteur. Et j'avais entendu qu'ils parlaient contre moi. J'allais voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai entendu, il y a des gens qui disent que je vais commencer mon propre église. Il y a des gens qui disent que je fais n'importe quoi que je veux parce que j'ai tellement de gens. Mais je veux que tu saches, pasteur, que si tu veux que j'arrête la classe, je vous le donne maintenant et je fais n'importe quoi tu veux. Tu veux que je change quelque chose dans la classe, je le change. Tu veux que je veux faire n'importe quoi tu veux, pasteur, je suis un homme soumis à toi. Il a dit, non, 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 Paul, je veux que tu continues. Parce que tu as cette attitude-là. Il a dit, la seule chose que je te demande, c'est arrête de faire le louange durant l'école de dimanche. Parce qu'on faisait, deux, trois chants, mais il ne voulait pas qu'on le fasse parce que des gens allaient à l'école dimanche et non au culte. J'ai dit, pasteur, je me soumets à toi absolument. Je vais arrêter le temps de louange avant et on va juste aller directement dans l'étude biblique. Oui, je me soumets à toi. Et le Seigneur m'a béni. Il m'a béni, même quand les gens me critiquaient. J'étais allé voir mon pasteur. Je dis, pasteur, je ferai n'importe quoi pour toi, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai été éprouvé. Ça a testé mon cœur et l'habilité de me soumettre. Septième, le test du pardon. Ça, c'est le test que la plupart des gens que je connais faillit. C'est un test. Et je sais que vous l'avez subi. Si vous êtes un leader, vous avez été trahi. Si vous êtes pasteur, vous avez travaillé, vous avez étudié, vous avez jeûné. Vous avez le dimanche matin, quelqu'un te critique. Tu t'es réveillé à 2 h du matin pleurant pour l'église, mais il te critique parce que tu as changé le tapis. Il te critique parce que quelqu'un a chanté une chanson qu'il n'aimait pas. J'ai appris quelque chose il y a longtemps, que je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, j'ai simplement décidé de plaire à papa. Parce qu'il y a des gens qui sont partis de mon église parce qu'on a changé le tapis. D'autres sont partis parce qu'on a changé un peu la musique, un peu. D'autres ont changé parce que je voyage une fois par mois. Ils n'ont pas aimé ça. D'autres sont partis parce qu'on a donné 20 000 $ aux Indes. D'autres sont partis. Je ne peux pas plaire à personne. Donc, je plais à papa. Puis, je dis aux gens, si vous pensez que je suis ici pour vous plaire, je vous dis au revoir maintenant. Il y a d'autres églises qui peut-être vont passer tout le temps à essayer de te plaire. Moi, je suis venu ici pour Éphésiens 4:11, pour vous équiper pour faire le mystère. Je ne suis pas venu ici pour être votre meilleur ami. Je ne suis pas venu ici pour aller pour des tartes tous les dimanches matin, tous les dimanches après-midi pour prendre des tartes avec toi chez vous. Je ne suis pas venu ici pour être votre conseiller. Je suis venu pour être celui qui vous équipe pour changer le monde. C'est la question. Il fallait que je pardonne beaucoup de personnes. Des gens qui m'ont trahi, des gens qui ont parlé contre moi. Je me rappelle, il y a une fois que Ma fille avait le cancer. Mon père a eu le cancer la même année. Je suis allé faire le funérail de mon père. Je suis revenu à l'église. Je reçois un appel du surintendant de notre dénomination avec laquelle on était affilié. Il dit, Paul, on va faire une enquête sur toi.
Je dis quoi?
Oui, on va faire une enquête pour voir, parce qu'il y a des accusations contre toi. J'ai dit non, mon frère, ça a été déjà, il y a déjà eu deux enquêtes. Ils ont trouvé que j'ai rien fait de mal. Il dit, mais ça fait rien, on va faire une autre. J'ai dit non, tu vas pas le faire, mon frère. Je m'excuse, mais on a déjà fait deux. Vous me demandez, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un homme qui battait sa femme dans notre église. Alors, je lui ai dit de partir de l'église. J'ai dit, pars de l'église, va chercher de l'aide, mais t'as pas le droit. Ta femme est venue ici pour le secours. Elle veut être protégée. Et tu es un homme qui abuse sa femme. Je ne respecte pas ça. Tu sors de mon église maintenant, jusqu'à temps que tu reçois de l'aide et t'arrêtes de faire ça. C'était un homme très, très riche à notre ville. Il était très bien reconnu à travers toute la ville. Il y avait des pancartes de marketing avec une chose qu'il faisait. Tout le monde le connaissait. Il avait appelé le surintendant. Il a dit, si tu ne descends pas ce Paul Goulet, je vais t'amener en cour. Alors, il m'a fait deux investigations. Je n'avais fait rien de mal. Je protégeais la femme. Mais il voulait faire un autre examen de ma vie parce que l'homme avait fait un avertissement? Oui, menace. Alors, je lui dis au surintendant, je lui dis non, mon frère, je viens juste de mettre mon père dans la terre. Je viens juste de traverser un temps dur de cancer d'enfant, ma fille. J'ai déjà fait deux, je t'ai laissé faire n'importe quelle interview de ma vie. Mais ça, ça arrête maintenant. Ça m'a tellement blessé. Ça m'a blessé. L'homme qui aurait dû me battre pour moi me lançait au lion. Le temps que j'aurais besoin de lui le plus, il ne m'a pas défendu. Il avait peur. Il avait peur d'un homme qui avait beaucoup d'argent et peur d'un homme qui était bien reconnu. Tu sais qu'est-ce que l'homme a fait? Il a acheté du temps sur la radio de notre ville, de Las Vegas, une grande ville, puis il parlait contre moi tous les jours. Tous les jours. C'est la simple raison qu'il a acheté du temps, c'était de parler contre moi et mon église, notre église. Mais j'étais fort. C'était un des plus dures épreuves. Vous savez qu'est-ce qui était plus dur? De pardonner l'homme qui aurait dû me défendre. De pardonner l'homme qui aurait dû se battre pour moi. Mais il y avait un esprit de peur, puis il était faible. Il aurait dû dire, je défends l'homme de Dieu qui travaille à Las Vegas, une ville comme Las Vegas. Il a complètement tourné contre moi. À la fin, quand finalement ce surintendant, il a pris sa retraite, le nouveau surintendant est venu me voir. Il me dit, Paul, qu'est-ce qu'il avait contre toi l'autre mars? Je dis, c'est pas à moi de savoir. J'ai resté fidèle. Il dit, le surintendant est venu avec toute son équipe demander pardon à moi et nos anciens. Ils nous ont demandé de leur pardonner pour toutes les méchancetés qu'ils ont faites contre moi et l'Église. Mais je les avais déjà pardonnés. C'était le test de pardon. Beaucoup de gens qui m'ont blessé dans l'Église. 20 ans. Beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, on va être là. Ils n'étaient pas là. Beaucoup de gens qui m'ont trahi. Beaucoup de gens qui ont parlé contre moi, qui ont parlé contre ma femme. Un de mes anciens, quand il est arrivé là, il dit, « Oh, je prophétise que Paul Goulet va partir dans 2 ans. » Un de mes anciens. Un autre ancien m'écrit une lettre, « Ton fils a des patins à roulettes. Tu aurais dû prendre cet argent-là et donner aux missions. » Il m'a critiqué parce que mon enfant avait des patins à roulettes. Vous savez, pasteur, une des choses les plus dures à gérer comme leader, c'est de pardonner toutes les gens qui vont te blesser. Tu dis, oh, ça va, ça t'est blessé aussi? Oui, je suis blessé aussi des fois. On n'est pas fait de fer, on n'est pas fait de roche. Mais qu'est-ce qui me tient vivant maintenant? Je pardonne. Des fois tous les jours. Des fois 10 ans, des fois par jour. Si Jésus, je les pardonne. Je les pardonne, Jésus. Remplis-moi d'un cœur de guérison et d'amour, mais je les pardonne maintenant. Dans le nom de Jésus. Comme j'ai fait avec la femme, il y a un couple de jours, à Dijon, je la pardonne. Je ne laisse pas de rancune dans mon cœur. Le pardon, c'est un test. Est-ce qu'on peut prier? On va prendre un petit break, mais avant le break, y a-t-il quelqu'un qui t'a vraiment blessé? Y a-t-il peut-être un liste? Je me rappelle, j'ai demandé cette question-là une fois à quelqu'un, puis ils ont écrit 8 pages. Déjà, qui les ont blessés? Peut-être vous n'avez pas 8 pages, mais peut-être vous avez 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. Peut-être c'est facile de penser aux circonstances de trahison. Circonstances où tu as donné le mieux, mais quelqu'un t'a même critiqué. Vous savez, moi je connais votre cœur comme leader. On se sacrifie toutes les semaines. Et on ne dit pas toutes les choses qu'on fait derrière les scènes. Mais je sais que le ministère de leader, c'est un ministère de sacrifice. Mais aussi, on affronte toujours un esprit critique. Des gens qui pensent qu'ils peuvent mieux faire que nous autres. Des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est d'être leader. Alors pensez, juste pour une couple de minutes, à quelqu'un que vous devez pardonner. Et prenez la première étape de pardon. Seigneur, je les pardonne dans le nom de Jésus. Vous me dites, combien de fois tu as pardonné cet homme-là? À chaque fois que je me rappelle de lui, je lui ai pardonné. J'ai commencé un jour, Jésus, je le pardonne maintenant. Mais à chaque fois que je me suis rappelé de lui, et ça surmontait, il y a quelque chose, j'ai senti encore un peu de douleur, j'ai dit, Seigneur, je le pardonne encore. Jusqu'à temps que j'ai plus de blessure. Jusqu'à temps que je peux penser à lui maintenant et le bénir. Il l'aimait. J'ai eu la chance de faire ça récemment dans sa vie. Pense à au moins une personne. Et dites clairement, Seigneur, je pardonne ma mère. Je pardonne mon père. Je pardonne le diacre qui m'a trahi. Je pardonne mon mari qui m'a menti. Je pardonne ma femme qui m'a blessé. Dans le nom de Jésus, je pardonne. Wow. Dans le nom de Jésus, je pardonne. Dans le nom de Jésus, je pardonne. Dans le nom de Jésus, je pardonne. Wow. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour le fait que tu es dans cette salle. Merci pour l'habilité et le choix de pardon. Je pardonne dans le nom de Jésus. Avant qu'on prenne notre café, est-ce que tu peux juste te tourner vers ton ami et avec le courage, dites-lui qui t'a pardonné. Simplement dis, je viens juste de pardonner mon père. Tu n'as pas besoin de dire quoi, mais dis-lui ou dis-elle, j'ai pardonné à un diacre. J'ai pardonné à mon mari. J'ai pardonné à mon fils qui est rétrograde. Je l'ai pardonné. Il m'a fait beaucoup de blessures. Je pardonne. Dis à quelqu'un maintenant. Tourne-toi et dis, j'ai pardonné. Et dites-leur un nom. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que la parole dit, si je confesse, il va me guérir. Et après que la personne te dise qu'ils ont pardonné, est-ce que tu peux leur donner des câlins? Est-ce que tu peux leur dire que tu les aimes? Est-ce que tu peux les remercier pour d'être tellement courageux de pardonner quelqu'un? Et on va prendre... Philippe, est-ce que tu peux nous donner des instructions?
Voilà, la première session. On se retrouve à 16h30 pour la session numéro 2. Donc, on a 25 minutes de break. Vous avez à votre disposition, à l'entrée, café, thé, petit gâteau, etc. Merci à tous. Et on se retrouve vraiment à 16h30. On compte sur vous pour que vous soyez bien là à 16h30 pour qu'on puisse tenir le planning. Merci.